RFI, il est 15h à Paris, 17h à Damas.
Juliette Pietraszewski.
À la une de ce journal, les tueries de civils en Syrie doivent cesser immédiatement. Déclaration du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Après trois jours marqués par des violences communautaires en Syrie, plusieurs centaines de civils alaouites ont été tués par les forces de sécurité, selon l'OSDH. Washington met fin à une dérogation accordée à l'Irak pour ses importations énergétiques d'Iran. Une dérogation accordée depuis 2018 permettant à Bagdad d'importer du gaz et de l'électricité de l'Iran voisin, malgré les sanctions américaine imposée à Téhéran. Les détails dans un instant. Au Canada, sur fond de guerre commerciale avec les États-Unis, le Parti libéral va désigner le successeur du Premier ministre Justin Trudeau. Marc Carney, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du pays, est le mieux placé des quatre candidats. Et puis nous irons au Royaume-Uni en fin de journal pour recenser les jonquilles avec les Britanniques rencontrés par Emeline Vin. La Société royale d'horticulture espère mieux protéger les espèces en danger. En Syrie, nous devons préserver la paix civile autant que possible. Le président, par intérim, Ahmad El-Sharrey, appelle aujourd'hui à l'unité nationale dans le pays. Un appel après trois jours marqués par des violences communautaires sans précédent depuis la chute de Bachar el-Assad en décembre dernier. L'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres fait état de plus de 745 civils alaouites tués par les forces de sécurité et des groupes affiliés depuis jeudi. Est-ce que les événements en cours menacent la transition menée par le nouveau président syrien Ahmad El-Sharrey? Ce midi, Olivier Sherman a posé la question au politologue franco-syrien Salam Kawakibi, directeur du Centre arabe de recherche et études politiques de Paris.
Ça peut le menacer sérieusement, surtout si Ahmad El-Sharrey n'arrive pas à s'en sortir vainqueur. Il faut qu'il profite, si j'ose dire, profiter de ce massacre, de ces exactions déplorables et condamnables pour réformer l'armée, pour sanctionner tous les responsables de ce qui s'est passé, parce que tout a été documenté. Ce qui est paradoxal, c'est que les bourreaux filmaient leurs exactions. Maintenant, on a plus que 100 vidéos qui documentent toutes les violations des droits des humains. C'est très possible pour lui de s'en sortir, mais il faut qu'il sache que il est sous la loupe des observateurs. Le destin de la Syrie est lié à ces décisions.
Des propos recueillis par Olivier Sherman ce midi sur RFI. Les tueries de civils en Syrie doivent cesser immédiatement, a par ailleurs réagi l'ONU il y a quelques minutes. Au Proche-Orient toujours, la trêve entre Israël et le Hamas est en vigueur depuis le 19 janvier. Il y a des signaux positifs pour négocier la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. C'est ce que souligne le Hamas ce dimanche. De son côté, Israël a annoncé envoyer une délégation à Doha demain pour de nouveaux pourparlers. Hier déjà, des négociateurs du Hamas ont rencontré les médiateurs égyptiens sur le maintien de la trêve fragile à Gaza. Toujours dans l'enclave palestinienne, l'armée israélienne a mené une frappe aérienne aujourd'hui contre des combattants qui, selon elle, enfouissait un engin explosif dans le nord de la bande de Gaza. A noter également cette déclaration. Le projet du président américain Donald Trump pour déplacer les Palestiniens de la bande de Gaza prend forme. C'est ce qu'a affirmé ce dimanche le ministre des Finances israélien d'extrême droite Bezalel Smotrich. Par ailleurs, Washington suspend la dérogation accordée à l'Irak depuis 2018 permettant à Bagdad d'importer de l'électricité de l'Iran voisin, et ce malgré les sanctions américaines imposées à Téhéran. Ce dossier est ultra sensible en Irak. Des coupures d'électricité sont souvent à l'origine de manifestations à Agnieszka Kumor.
L'annonce a été faite par une porte-parole de l'ambassade américaine dans la capitale irakienne. Selon elle, cette décision s'explique par un souhait du président Donald Trump de mettre fin à la menace nucléaire de l'Iran et à son programme de missiles balistiques. Washington accuse aussi Téhéran de soutenir des groupes terroristes. C'est dans ce contexte que l'ambassade des États-Unis à Bagdad a appelé le gouvernement irakien à mettre fin à sa dépendance aux sources énergétiques iraniennes. Les États-Unis n'ont pas communiqué en revanche sur le sort des achats de gaz. Les importations de gaz et d'électricité de l'Iran représente un tiers des besoins d'énergie de l'Irak, pays aux immenses richesses en hydrocarbures. carbure qui tente de diversifier ses sources d'énergie. En raison d'un pays irakien, mais aussi à cause d'une hausse de sa consommation domestique, Téhéran suspend régulièrement ses approvisionnements à l'Irak, entraînant des coupures électriques quotidiennes dans ce pays de 46 millions d'habitants.
Agnieszka Kumor, on parlait tout à l'heure de l'avenir de Gaza, mais l'avenir de l'Ukraine est aussi au centre de l'attention avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Ce dimanche, les autorités ukrainiennes affirment que la Russie a lancé plus de 100 drones au cours de la nuit dernière. De son côté, Moscou a affirmé ce dimanche toujours s'être emparé d'un village dans la région ukrainienne de Soumy lors d'une offensive transfrontalière dans le cadre des combats qu'il oppose aux troupes de Kiev dans la région russe de Koursk. Hier, après des frappes russes en Ukraine, la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaya Kallas, a par ailleurs estimé que Vladimir Poutine, le président russe, montrait qu'il n'avait aucun intérêt pour la paix. Dans l'actualité internationale également, sur fond de guerre commerciale avec les États-Unis, le Canada connaîtra le nom du successeur de Justin Trudeau aujourd'hui. Le Parti libéral va élire son nouveau chef. La personne choisie deviendra le nouveau Premier ministre du Canada, en tout cas jusqu'aux prochaines législatives qui doivent se tenir d'ici le mois d'octobre. Pour rappel, Justin Trudeau avait démissionné début janvier. Ces derniers temps, il a réussi à redorer un peu son blason en tenant tête à Donald Trump, mais pas sûr que cela soit suffisant. Frédéric Boilly est professeur de sciences politiques à l'Université de l'Alberta.
Les dernières semaines ont montré un Justin Trudeau différent de celui qu'on connaissait auparavant, plus incisif, prêt à prendre des décisions plus rapidement, à moins tergiverser. Il est moins impopulaire maintenant en raison de cette combativité démontrée contre Donald Trump, mais en même temps, son héritage, son bilan va être indexé également aux résultats de la prochaine élection, parce que si jamais il y avait un effondrement libéral, et on se souviendrait de la façon dont Justin Trudeau a été poussé dehors par son propre caucus, par des pressions à l'interne, et là, on se rappellerait également qu'il n'a pas su partir au bon moment. Donc, Justin Trudeau sera vu comme étant celui qui s'est effectivement accroché trop longtemps au pouvoir et qui a voulu faire prendre une direction trop à gauche au Parti libéral.
Des propos recueillis par Marine de la Moissonnière. En Colombie, 28 policiers et un militaire ont été libérés hier. Ils étaient séquestrés depuis jeudi par un groupe de guérillos dissidents des FARC dans le sud-ouest de la Colombie. Les otages avaient été enlevés dans une région montagneuse sous le contrôle des guérillos de l'état-major central qui n'ont jamais accepté l'accord de paix signé en 2016 avec la majorité de la guérilla marxiste des FARC. Et sur une note plus légère, on prend la direction du Royaume-Uni pour une balade au milieu des fleurs. Elle marque le retour du printemps. Les jonquilles font le bonheur des Britanniques entre la fin février et la mi-avril. Cette année, les Britanniques sont invités à les répertorier dans leur jardin. La Société Royale d'Horticulture espère ainsi mieux protéger les espèces en danger. Emeline Vins s'est rendue au jardin botanique de Weasley.
Au sol de la pinède du jardin botanique de Weasley, des dizaines de jonquilles jaunes et oranges qui ravissent Paul, jardinier amateur.
Certaines variétés sont en danger. J'ai lu dans le magazine de la Société Royale d'Horticulture un appel à les chercher chez soi, à savoir si elles existent encore dans certaines régions. Nous, on n'en a pas.
À l'origine de cet appel, la Société Royale d'Horticulture, Fiona Davison, dirige la bibliothèque de la RHS.
Sur 30 000 variétés connues de jonquilles, une toute petite partie continue d'être cultivée et beaucoup ont été perdues. Nous demandons aux jardiniers de rechercher 3 variétés très rares et potentiellement éteintes de jonquilles qui pourraient avoir été plantées il y a longtemps dans un jardin et oubliées depuis. Si on peut les retrouver, on pourra ensuite les reproduire et les protéger.
Parmi ces variétés égarées, un narcisse à double corolle blanche, le Sussex Bonfire, rond et doré, et la préférée de Fiona Davison, le narcisse rose et ivoire Mrs. Backhouse.
Cette fleur tient son nom de Sarah Backhouse, une pionnière du jardinage qui a créé la première jonquille rose. Elle mériterait d'être sortie de l'oubli, donc on aimerait vraiment retrouver sa jonquille.
Un millier de jonquilles ont déjà été cartographiées, dont plusieurs pistes prometteuses. Emeline Van, Londres, RFI.
Et toujours à Londres, l'homme qui avait escaladé hier matin la tour où se trouve l'horloge de Big Ben avec un drapeau palestinien a été arrêté, annonce de la police. Hier après-midi, de nombreuses personnes s'étaient rassemblées pour soutenir le grimpeur à l'extérieur du cordon de sécurité mis en place par la police. La façon dont l'homme a pu accéder à la tour soulève désormais de nombreuses questions. RFI, il est bientôt 15h10 à Paris. Merci de nous écouter. Dans un instant, c'est la suite de vos programmes.